Inflation US-PCE du vendredi 31 mai. La Fed avertit. La haute finance transpire. Alors, chers amis, bienvenue. C'est la nouvelle édition du Top Gun. Je suis ravi de vous retrouver à un moment où le marché action et le marché obligataire sont repartis depuis le début du mois de mai en tendance haussière. Mais voilà, la Fed tape du poing sur la table. La semaine dernière a vu les minutes du FOMC, les minutes de la Fed. Vous savez, chaque jour, ce beau petit monde, le comité de politique monétaire de la Fed, qui se compose des patrons des banques centrales régionales des États-Unis qui sont fédérés au sein de la Réserve fédérale des États-Unis. Chaque jour, ils répètent, comme moi je répète, que il n'y a pas encore suffisamment de confiance en la reprise de la désinflation et qu'il faut plusieurs mois. Alors qu'est-ce que ça veut dire plusieurs mois? Moi je pense qu'il faut au moins 3 mois consécutifs. Vous savez, en analyse macroéconomique, c'est pas parce qu'on a une data qu'on a une tendance. Ce n'est pas parce qu'on a une donnée économique que nous avons une série macroéconomique. Il s'avère qu'effectivement, au mois d'avril, l'inflation US selon le CPI, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, a repris sa tendance baissière. Très bien. Alors, voilà, effectivement, lueur d'espoir, on respire. Parce que sur janvier, février, mars, elle s'était mise à plat. Mais voilà, depuis, alors, le marché action on a bénéficié, le marché obligataire s'essaye aussi à un rebond depuis le début du mois de mai, enfin, à réengager cette puissante phase haussière qu'il avait connue et que nous avons accompagnée ensemble entre septembre et décembre 2023, et il essaye de repartir en réplique. Mais voilà, la Fed continue de taper du poing sur la table. Elle tape du poing sur la table parce que pour elle, ce n'est pas parce que l'inflation CPI sur un mois, donc les chiffres d'avril qui sont publiés en mai, a vu le réengagement de cette tendance baissière, que cela a changé la donne. Et d'ailleurs, alors que le marché anticipe, la haute finance anticipe, une première baisse de taux de la Fed le mercredi 18 septembre prochain, pour être précis, les membres de la Fed, vous savez que certains parmi le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale suggère encore qu'une dernière hausse de taux soit nécessaire. Et c'est pourquoi cette inflation PCE du vendredi 31 mai, donc ce vendredi, elle est cruciale et c'est pourquoi le marché transpire à grosses gouttes parce que si le CPI a effectivement réengagé sa tendance baissière en version sous-jacente, il est encore haut. 3,6, alors en grande partie à cause de la composante immobilière que nous savons retourner plus bas lors des 6 prochains mois, je vous l'ai déjà expliqué. Par contre, la Fed regarde le PCE. Dans cette inflation PCE, vous avez moins d'immobilier, davantage d'inflation des services. La méthodologie de calcul des différentes composantes est aussi très différente du CPI. En clair, le PCE s'est mis en pause en version sous-jacente depuis le début de l'année à 2,8% en rythme annuel. Le marché envisage pour ce vendredi 31 mai, ce vendredi 31 mai c'est le PCE du mois d'avril qui est publié, c'est le temps que les informations de l'économie réelle remontent à l'institut qui calcule le PCE, qui est le département du commerce, eh bien le marché veut une confirmation du CPI. C'est-à-dire que si le CPI IPC en français a repris sa tendance baissière en version sous-jacente, le marché a besoin de voir que le PCE aussi. Et surtout, il est à 2,8 en version sous-jacente. Et je vous rappelle que la Fed a dit qu'elle aurait suffisamment de confiance si on cassait 2,6 et qu'on reprenait la tendance baissière. Et là, le consensus, c'est 2,6, 2,7 pour ce vendredi. Alors imaginez un tant soit peu que ce soit 2,8. Oula, ce sera plus que des grosses gouttes de transpiration. Ah, je vous garantis que si ce vendredi, non mais je vous le garantis, si ce vendredi, l'inflation PCE sous-jacente, en rythme annuel, ressort à 2,8, qu'il n'y a pas en fait de reprise, ça va aller mal pour à la fois le marché action et le marché obligataire. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vous fais le suivi analyse technique du marché action US et du marché obligataire US. Et donc, c'est parti, les amis, on attaque. Nous attaquons, première partie, inflation PCE du 31 mai. La Fed avertit, la haute finance transpire. Elle transpire à grosses gouttes comme nous roulons les airs. Et oui, dans ma famille, partie de ma famille, du côté de mon papa, nous venons de la campagne, nous venons de la Bourgogne. Oui, il y a longtemps. Alors que la haute finance rêve d'un pivot de la réserve fédérale. Lors de la décision du 18 septembre, les membres de la Fed ne cessent de répéter à tout va qu'il faut plusieurs mois consécutifs de reprise de la désinflation. Voilà le plan, les amis. On parle d'inflation, on parle de S&P 500, de GAFAM, de Nvidia, d'analyse technique, du sentiment des traders particuliers, du positionnement institutionnel. Small et mid cap US, aura-t-on un rattrapage haussier? Si oui, comment le savoir? Et le suivi technique des taux obligataires et des obligations. Bienvenue au Top Gun. Inflation US PCE du vendredi 31 mai. La haute finance transpire à grosses gouttes. Elle transpire à grosses gouttes que lorsque nous pouvons faire par exemple une grosse session de sport bien intensive quand il fait 30 degrés. C'est pareil. Mais sauf qu'après cette grosse session de sport et qu'on transpire à grosses gouttes, on a des hormones du plaisir, l'endorphine entre autres. Aurons-nous aussi ce vendredi 31 mai notre dose d'endorphine? Pour avoir notre dose d'endorphine ce vendredi 31 mai, il y a des conditions bien particulières à respecter que je vais vous décrire tout de suite. Alors, je vous ai remis en haut à droite un tableau qui vous refait la synthèse d'où se trouvent actuellement les différentes mesures de l'inflation aux États-Unis, selon le PCE, qui est l'indice favori de la Fed, le CPI, qui est un indice d'inflation à la consommation que la Fed regarde, mais qui ne fait pas partie de ses objectifs, mais la tendance est la même, le PPI, les prix à la production, qui eux sont revenus au monde d'avant. Et c'est vrai que nous savons qu'en général, encore une fois, le PPI anticipe le CPI et le PCE. Bon. Alors, cette semaine, c'est l'indice des prix PCE qui est mis à jour. Le CPI, il a été il y a deux semaines, et le marché a été très satisfait de voir une reprise de la désinflation sous-jacente selon le CPI. Donc le CPI, c'est ça. Je vous l'ai montré la semaine dernière, voilà. Le marché a été très content de ça. Cette petite reprise de la tendance baissière. Alors, les différentes composantes, je vous renvoie vers le Top Gun de la semaine dernière. C'est pas ce qui nous intéresse. Mais au final, ce qui a les conséquences, en fait, de cette reprise de la tendance baissière du CPI, c'est ça. Le marché a repris espoir. C'est-à-dire qu'en fait, fin avril, le marché n'avait plus aucun espoir pour 2024. Vous avez ici, selon l'outil CME Fed Watch Tool, la probabilité implicite d'action de politique monétaire en matière de taux d'intérêt des fonds fédéraux, pour être précis, de la Réserve fédérale des États-Unis. Et le marché espère encore qu'il y ait, eh bien, au moins une baisse de taux, 50% de proba, hein, c'est pas non plus tonitruant, le mercredi 18 septembre prochain. Alors, l'indice des prix PCE, c'est le baromètre favori de la Réserve fédérale des États-Unis. Il est à 2,8%. Rappelons que la Fed de Jerome Powell a précisé qu'elle commencera à baisser le taux d'intérêt des fonds fédéraux quand le PCE sous-jacent ou core. Alors, lorsque je parle de PCE sous-jacent, c'est la traduction anglaise de core PCE, C-O-R. Bon, le so-called core, comme disent nos grands amis anglo-saxons, le so-called core. Voilà, l'inflation dite sous-jacente, c'est-à-dire celle qui échappe à des éléments beaucoup plus volatiles, comme le prix de la bouffe, comme le prix de l'énergie. Bon, et donc, ce vendredi 31 mai, c'est toujours à la fin du mois que le PCE est mis à jour, hein, c'est pour le petit suspense de la clôture technique mensuelle. Bon, à 14h30, il est mis à jour. Deux choses. Tout d'abord, sa version au rythme annuel. Deuxièmement, sa version au rythme mensuel. Troisièmement, ses composantes. Et en particulier la composante immobilière et la composante service. J'ai envie de dire, surtout la composante service. C'est ça qui stresse la Fed. Je vous rappelle que les États-Unis sont une économie de service à hauteur de 80% du PIB, 19% pour l'industrie, 1% pour l'agriculture. Et pour l'inflation immobilière, nous avons des indicateurs d'inflation temps réel qui montrent qu'en fait les loyers ne sont plus en croissance. Donc nous savons que l'inflation immobilière est vaincue. C'est simplement le temps que cela remonte dans les indices officiels. Pour l'inflation des services, nous ne savons rien. Notamment l'évolution du prix des assurances, et vous avez suivi le taux d'inflation des assurances automobiles, c'est 15% par mois, c'est pas possible. Donc voilà. Alors, l'inflation des nouvelles voitures, elle est à zéro. Nous savons qu'il y a une corrélation, mais avec retard, de l'inflation des assurances automobiles par rapport au prix des nouveaux véhicules. Donc on a envie d'y croire. Mais les assureurs ont l'air de pas être non plus super chauds pour interrompre. Ben forcément, ils font un max de cash. Bon. Donc, alors, nous savons sans savoir. La Fed exige plusieurs mois consécutifs de reprise de la désinflation core pour crier victoire. Nous allons donc regarder l'ensemble des éléments dont je vous ai parlé. Tout de suite, que faut-il suivre ce vendredi 31 mai et qu'est-ce qui fera la pluie et le beau temps? Ici, vous avez le CPI. Très bien. Vous avez donc compris qu'en version sous-jacente, la lueur d'espoir est venue de ce petit tic à la baisse de 3,8 à 3,6. Bien. Vous avez maintenant le PCE core ou sous-jacent. Voilà. Cette courbe bleue, mes amis, fait la pluie et le beau temps. Finalement, c'est juste une courbe d'une couleur. Voilà. Le core PCE inflation. Le core PCE inflation, je suis ici sur le site de la Réserve fédérale de Cleveland, qui propose cette belle section sur l'inflation US. La Fed regarde le core PCE. En voulez-vous la démonstration? Très bien. Je me rends sur, cette fois-ci, le site de la Réserve fédérale des États-Unis. Et donc, toutes les deux décisions de politique monétaire, la Réserve fédérale des États-Unis met à jour ses projections macroéconomiques. Vous avez notamment ici les objectifs de la Fed en matière de croissance économique, GDP pour PIB, en matière de marché du travail, unemployment rate pour taux de chômage, et en matière d'inflation, et regardez bien, il s'agit bien du PCE. Et la Fed, lorsqu'elle communique, elle regarde le core PCE. Donc en fait, cette ligne-là fait plus ou moins la tendance du marché à actions américain et du marché obligataire. La Fed envisage en 2024 que le core PCE retombe à 2,6. S'il retombe à 2,6, elle envisagerait alors de passer ses taux de 5,5 à 4,5, enfin 4,75. Ça ferait 3 baisses de taux. Donc comprenez bien que ce chiffre est important. Et donc actuellement, qu'est-ce qui a stressé le marché depuis le début de l'année? Eh bien, l'inflation core PCE, donc core PCE inflation, core PCE inflation, s'est mise en pause. Vous constatez comme moi que nous avions une courbe descendante et qu'elle s'est mise à plat. Et c'est donc le fait qu'elle se soit mise à plat comme ça qui fait dire à la Fed, il n'y a plus de progrès dans la désinflation. Sauf que le CPI, comme je vous ai montré il y a 2 minutes, a repris sa pente baissière. Et donc, la question, le PCE fera-t-il la même chose? En gros, ce vendredi 31 mai, si vous avez 2,6, c'est génial, le marché sera content, nous aurons un deuxième chiffre qui confirme la reprise de la désinflation. Alors ensuite, il faut au moins deux chiffres consécutifs pour une série. Donc en juin, vous aurez celle du mois de mai. Donc bien sûr qu'on attendra aussi ce juin, mais déjà là, si le PCE tombe à 2,6 ce vendredi 31 mai, c'est cool. Respire. 2,7, c'est cool, mais c'est pas non plus la folie. Là, on regardera à ce moment-là en détail les composantes. 2,8, c'est pas bon du tout. Bon, 2,9, je vous raconte pas, c'est le crack. Crack des obligations, crack des actions. Donc ça, c'est la version annuelle. Maintenant, en version mensuelle, dans le monde d'avant, le PCE, donc USA, core PCE, monthly basis, ici j'essaie d'être précis, en yearly basis, là je suis en monthly basis, dans le monde d'avant, nous étions entre 0, 0,20, parfois 0,30, en mensuel. Depuis le début de l'année, on a eu un 0,5, 0,30, 0,30. Le marché veut voir au maximum 0,30 et serait très content de voir du 0,20. Lorsque vous reprenez l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, qui est une des antennes régionales de la Réserve fédérale des États-Unis, un algorithme qui fonctionne bien pour anticiper l'évolution de l'inflation aux États-Unis à horizon 2 mois, eh bien, pour l'inflation PCE du mois d'avril, qui est donc publiée ce vendredi 31 mai, le consensus est à 2,74. Et pour mai, 2,67. Donc, et en version mensuelle, 0,23. Ici, vous avez des datas qui sont le minimum légal à observer, sous peine de menacer ce qu'essayent de faire le marché action et le marché obligataire US depuis donc le début de l'année. Voilà, chers amis, donc ce qui sera très important à suivre pour ce vendredi 31 mai. Oh là, je vais un peu vite. Maintenant, S&P 500 et GAFAM, parlons analyse technique. Alors, S&P 500 et GAFAM, parlons analyse technique, chers amis. Alors, bon, je vous rappelle la dynamique de fond sur le suivi technique du S&P 500. Le marché est construit actuellement sa grande vague 3, très bien. Et depuis la semaine dernière, il s'essaye à un franchissement de ses récents plus hauts, qui serait donc un signal de continuation. Pour cela, bien sûr, tout repose sur les GAFAM, vous le savez, et en particulier donc les résultats d'NVIDIA qui ont été publiés la semaine dernière. Et clairement, les résultats d'NVIDIA, le secteur de la tech, regardez un peu la poursuite de l'explosion haussière des résultats d'NVIDIA. Ici, donc vous avez eu la semaine dernière les résultats trimestriels en termes de chiffre d'affaires. Les perspectives sont bonnes et effectivement, cela donc continue d'entretenir la tendance haussière du secteur des technologies de l'information. Alors, moi j'estime que nous sommes toujours dans la construction de cette grande vague 3. Nous avons eu la sous-vague 1, la 2, la 3, la 4. Alors, qu'est-ce qui permet de distinguer une grande vague 2 d'une grande 4? Alors, rappelez-vous ici, j'avais l'hypothèse, savoir est-ce qu'on faisait une grande 4 ou simplement une petite 4 de la grande 3. Et j'ai pour ça utilisé les enseignements du système Ishimoku, en expliquant que tant que le marché ne traversait pas le nuage, c'était une sous-vague 4 de la grande 3. C'est exactement ce qu'il s'est passé. L'Ishimoku sait être précis. Je reconnais moi tout à fait l'efficacité de cette approche. Avec un marché qui a tenu la SSB. Très bien. Et donc le prix est même ressorti impeccable. Donc nous sommes dans une sous-vague 4 de la grande 3. Cela signifie donc que si elle est vraiment terminée, nous avons la construction actuelle de la sous-vague 5 de la grande 3. Nous sommes en price discovery, comme disent nos grands amis anglo-saxons, en français, en découverte de prix. À partir de là, en découverte de prix, il n'existe pas de niveau de résistance du passé. J'ai beau revenir 30 ans en arrière, même un siècle, je ne retrouve pas. J'ai rien. Donc comment m'orienter? Alors, en données mensuelles, je vous ai déjà expliqué que ce sera une belle divergence baissière, comme ça arrive tous les 10 ans, qui viendra interrompre le bull market. Maintenant, il faut utiliser des approches théoriques, et moi j'utilise beaucoup la théorie et des vagues d'Elliott, et donc ses objectifs théoriques, et là je travaille en particulier donc la cible théorique, la recherche d'une cible théorique pour ce qui est une vague 5. Vous avez donc des ratios usuels pour essayer de calculer la cible théorique de la vague 5. On peut projeter soit une amplitude de la 3, une amplitude de la 1, ou encore on peut projeter une amplitude du bas de la 1 au top de la 3. Il existe ici, et là vous avez des probabilités, voilà, un certain nombre de façons de calculer l'objectif théorique de cette vague 5. Alors, je peux en mettre un certain nombre, mais là j'ai voulu faire au plus simple. J'ai pris donc l'amplitude de la vague 3 de la grande 3, et je projette une extension du bas de la 3 au haut de la 3 au bas de la 4, ce qui me donne ici des extensions, et donc, voilà, ce qui donne une cible théorique pour la vague 5, comprise entre les 5350 et les 5600 points. C'est grosso modo, grosso merdo, ici, que nous pourrions envisager une cible haussière, quelque part en fait, dans tout ça, une cible haussière pour la fin de l'année. Alors, est-ce que cette approche est bonne? Sommes-nous vraiment dans une sous-vague 5? Est-elle encore avec du potentiel? Elle peut s'arrêter là. Ici, vous avez le 0,618 d'extension de la 3. En fait, on va faire simple. Là, on fait du fractal, maintenant on va faire du chartisme. Systématiquement, à chaque fois qu'il y avait un breakout haussier d'un ancien sommet, le S&P 500 poursuivait sa hausse. Eh bien, vous avez là donc, ici, vous prenez ici le cours de clôture. Le cours de clôture, c'est cette bougie verte, voilà. Concrètement, tant que le S&P 500 se maintient au-dessus des 5300 points, tant qu'il n'invalide pas ce qu'on appelle en chartisme un changement de polarité, c'est-à-dire une ancienne résistance devenue support, eh bien, il est dans la construction de cette sous-vague 5 de la grande 3. Donc, tendance haussière, tant que les 5300 points font support, mais en cas de rupture des 5300 points, eh bien, potentiellement, la sous-vague 5 de la grande 3 serait déjà terminée. Et dans ce cas, si elle est déjà terminée, nous commencerions une grande 4. Et là, tout de suite, la tendance pour cette fin de printemps serait différente. Voilà les amis. Donc, et de toute façon, ce sont les GAFAM hein, qui vont décider de tout ça. Les stars, et vous avez vu la semaine dernière, les résultats d'NVIDIA, je vous ai montré. Allez, c'est parti les amis, on continue. Donc, sentiment des traders particuliers, positionnement institutionnel, où en sommes-nous par rapport à cela? Alors, du côté des traders institutionnels, j'utilise les données du rapport Commitment of Traders, que vous pouvez retrouver sur le site de la Bourse de Chicago. Ok, très bien. Je regarde donc l'évolution du positionnement des asset managers sur le mini contrat S&P 500, qui est le contrat à terme le plus tradé. Et donc, vous avez toujours une tendance haussière de la position institutionnelle nette. Tant qu'il n'y a pas une rupture du cycle de creux et de sommet ascendant de la position institutionnelle nette sur le contrat futur S&P 500 et sur le contrat futur Nasdaq 100, eh bien, la tendance haussière institutionnelle reste en place. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser les données, mais ça c'est pour le trading court terme, des traders particuliers. Le réservoir des acheteurs s'est beaucoup rempli, mais le réservoir des vendeurs reste quand même moyennement rempli, il ne s'est pas complètement vidé. Alors, 47% d'acheteurs, c'est beaucoup. Nous sommes au-dessus de la moyenne, pas encore au niveau du record historique, mais effectivement, ça s'est rempli. Mais il ne déborde pas. Et surtout, il y a encore des vendeurs et même le pourcentage de vendeurs augmente. C'est-à-dire que ces données-là, il faut les lire de manière contrarienne. Et il faudra vraiment s'inquiéter lorsque vous aurez un pourcentage d'acheteurs à son paroxysme et un pourcentage de vendeurs à son plus bas. Et je trouve qu'il y a encore quand même pas mal de vendeurs. Donc, c'est fait partie des choses qui entretiennent cette tendance haussière du marché action US. Small et mid cap, y aura-t-il un rattrapage aussi? Alors, dites-vous bien une chose, c'est que là, c'est naturellement très conditionné par les perspectives de politique monétaire de la Fed. Le S&P 500, vous le savez, sans ses méga caps, sans ses 7 ou 8 méga caps, ne serait pas là où il est. D'ailleurs, si vous prenez le S&P 500, alors déjà équipondéré, il est quand même beaucoup plus bas, mais sa tendance est haussière, il n'y a pas de sujet là-dessus. Les small et mid-cap sont en retard. Pour envisager un rattrapage en bourse des small et mid-cap, il faut deux choses. Tout d'abord, il faut une baisse des taux d'intérêt. Ça, il n'y a pas de sujet. Une étude récente a été faite par Bloomberg qui montre que 60% des small et mid-cap déclarent, lorsqu'on interroge leur management, souffrir des conditions de financement actuelles. Elles ne surfent pas encore tous sur des lignes de crédit à taux 1 ou 0, comme la plupart des larges et méga caps, très bien. Et d'autre part, il faut un signal technique. Pour cela, je vous invite à suivre l'indice boursier Russell 2000. Et donc, doit-on envisager un rattrapage haussier? Eh bien, il faut naturellement d'abord la confirmation de la reprise de la désinflation sous-jacente aux États-Unis. Et surtout, il faut un signal technique. Alors, quel signal technique surveiller? Je vous montre ici un graphique assez épuré qui représente les bougies japonaises en données hebdomadaires du Russell 2000. Vous avez là donc, alors ça c'était le choc boursier de la crise sanitaire. La reprise post-Covid, là c'était la hausse des taux zéro. Là, vous avez donc un pivot. Et cette zone pivot a tenu. Maintenant, on voit que les small et mid-cap sont en trading range. Il y a ici un pré-signal chartiste haussier. Et lorsque vous ajoutez Ichimoku, c'est même, on est au-dessus du nuage. C'est une tendance bullish. Maintenant, sur le plan chartiste, vous avez cette énorme résistance ici, à 2132 points, qui était la partie basse de cette configuration de sommet. D'ailleurs, ici, à l'époque, vous aviez une belle divergence baissière prime momentum. Ici, c'est l'indicateur technique RSI. Donc, en clair, pour envisager un rattrapage des small et mid-cap, non seulement il faut une reprise de la désinflation sous-jacente aux États-Unis, et c'est pourquoi Cet indice des prix PCE du vendredi 31 mai est extrêmement important, j'ai insisté dessus en début de vidéo, et sur le plan technique, il faut un breakout, une cassure de résistance, une cassure des 2132 points, comme ici vous avez eu un breakout, et lorsque vous avez un breakout, cassure, dans le sens de la tendance, vous empilez les hausses. Casser cette résistance, c'est viser minimum ici. Et là donc, ça fait de l'upside. Donc, voilà ce qu'il faut suivre pour ce positionnement institutionnel. Et maintenant, taux obligataire et obligations, bien sûr, c'est le sujet majeur. Clairement, alors moi vous connaissez mon suivi et ma stratégie d'achat sur les obligations depuis le mois de septembre 2023, où il y a eu entre septembre 2023 et décembre 2023 une belle phase haussière. Cette phase haussière a été retracée 60-70% depuis le début de l'année. Bon, moi je suis toujours resté dans un scénario, c'est un retracement avant de reprendre cette tendance haussière qui a pris naissance en septembre 2023. C'était la fin de 2 ans de krach obligataire. Et techniquement parlant, on a des choses intéressantes, mais il manque pour envisager une vraie reprise de la tendance haussière du prix des obligations, du prix des bonds, il faut des cassures techniques baissières sur les taux d'intérêt du marché. Et je vous remonte donc, pour l'instant nous ne les avons pas, ces cassures techniques baissières. Mais c'est vraiment ce qu'il y a, c'est vraiment ça qu'il faut surveiller. Donc on va prendre le benchmark, le 10 ans américain. Regardez comme c'est passionnant. Déjà le mouvement de fond. Ok, bon. Alors, moi, je vous rappelle que j'estime que le marché a terminé à 5% ici un cycle fractal complet et qu'il se situe désormais ici dans une construction corrective chartiste classique en zigzag. Les 5 vagues, voilà, très bien. Donc, maintenant, pour envisager ce scénario, il faut casser des supports. Le gros support à casser, la zone support, c'est la zone des 4,35-4,10. 4,10%, 4,35. J'y ajoute les enseignements du système Ishimoku. Si le marché cassait les 4,35 et les 4,10, il rebascule sous le nuage. Et là, nous aurons le point de départ d'une baisse au minimum en direction de ce niveau-là des 3,25. Ça, c'est en données hebdomadaires. Maintenant, regardez comme c'est intéressant pour le court terme en données journalières. Ici, vous aviez eu un beau signal baissier en novembre dernier. Et en cassant le nuage, cette fois-ci en journalier. Et là, nous sommes sur le nuage journalier. Donc, en gros, il y a ici des choses intéressantes, il y a une divergence, ok, très bien, mais pour envisager un vrai signal bearish sur les taux, il faut casser le niveau, je vais être précis, il faudrait casser le niveau des 4,33-4,35%, ça ce sera un signal baissier court terme vers les 4,08-4,10, mais le vrai signal hebdomadaire, ce serait de casser les 4,08 et 4,10. Donc ce sont encore des étapes techniques ici que nous n'avons pas. Et cela se basera, et cela, si cela devait intervenir, c'est uniquement par une reprise, et encore lui, et on y revient toujours, car il fait l'appui et le beau temps, le core PCE inflation. Et dans ces cas-là, vous auriez donc la reprise de la hausse du prix des obligations. Voilà, chers amis, écoutez, j'espère que ce Top Gun vous a intéressé. J'ai beaucoup insisté sur l'importance de ce chiffre de vendredi. J'essaie de ne pas trop en faire, mais dites-vous bien une chose, c'est quand même la réalité. Ça reste l'inquiétude principale du marché, mais aussi de là où peut venir le salut. Merci à toutes et à tous, merci de m'avoir écouté, et puis bon début de semaine.